France Inter.
Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre.
C'est remarquable. On croirait du veau.
La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque.
CO2, mon amour.
Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose.
C'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernique et cuite dans les algues.
C'est merveilleux.
Mon chef excelle à préparer ces produits variés. Passez-moi un peu de lait.
Denis Chessou.
Ce lait, messieurs, est fourni par la mamelle des baleines polaires.
Sur France Inter.
Il n'y a rien de mangeable ici.
Nous éviterons donc le serpent de mer pour nous concentrer sur la coquille Saint-Jacques. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Julien Dumont aujourd'hui à la technique, notre collaboratrice est Camille Blanès, Xavier Pessugia a réalisé l'émission en compagnie d'Antoine Larcher. Et nous débutons par une petite humeur. Quoi de neuf ? Eh bien, l'eau. L'eau s'invite de plus en plus dans les débats. L'eau, c'est pas du tout un truc qui est réservé aux techniciens. Elle est devenue enfin politique. Car avant de parler aménagement, amis élus, pensez à l'eau. Sinon, votre développement ira se noyer sous un pont. Et si ça se trouve, la même rivière sera à sec en été et inondera en hiver. Ce sont les deux faces de la même médaille. J'étais récemment à la grand-messe technologique du Carrefour de l'eau à Rennes pour animer un débat. Une banderole résumait assez bien le gâchis. Dans l'eau des poissons, pas de poison. L'eau est une bonne fille, émissaire finale de nos progrès inconséquents. Elle avale tout, mais ne dilue pas tout. Elle a la mémoire, et oui, d'Epiphas et du reste. Et aussi vrai que la guerre fait vendre des armes, et bien les diverses pollutions de l'eau font vendre des filtres à membrane performants et autres techniques dont s'acquittent d'ailleurs fort bien nos ingénieurs et industriels. Eh bah oui, figurez-vous qu'on veut boire de l'eau potable. Alors l'heure n'est plus au bleu transparent des piscines, mais au flux suspect qui sort des robinets. Et les questions fusent. Quelle quantité? Quelle qualité? Pour quels usages? Où se cache-t-elle? Comment la retenir? La ralentir pour éviter qu'elle galope vers la mer? Comment la partager? Alors là, ça chauffe. Hein. Qui paye les travaux à venir? Et la nature? Quelle quantité lui laisser? Et on s'agite quand même dans les campagnes, dans les communes, on s'empare du sujet. Où ruissellent les pesticides, polluants éternels et cocktails chimiques déversés à foison sur nos belles céréales? Et les jus résiduels des friches industrielles, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. 1000 études existent depuis des années, mais ne comptez pas sur les gros bras de la FNSEA et de la coordination rurale pour partager. Avant tout, il s'agit de préempter l'eau en gardant le même modèle industriel de fuite en avant. Et le village gaulois s'enflamme, il bout et sort de la marmite. Que s'est-il passé récemment? Eh bien, l'adoption du nouveau schéma d'aménagement de gestion et de l'eau du bassin de la Vilaine, élaboré par la commission locale de l'eau. Et là, c'est plein de personnes compétentes. Hein. C'est pas des écolo-gauchistes shootés aux vapeurs de cannabis. Non, 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 c'est pas vrai, c'est du solide. Hop, ça a été repoussé. Alors que des mesures validées et financées étaient en place, les membres du plus grand sage de France avaient eu l'audace d'interdire les herbicides de maïs sur certaines parcelles proches des captages d'eau potable. Incroyable. On n'a plus le droit de dégueulasser la flotte et de faire payer la dépollution par le citoyen. C'est le monde à l'envers. C'était pourtant bien le principe pollué-payeur. Ah oui, la Vilaine n'est pas assez sage. Alors, moratoire imposé par le Premier ministre sur toute gestion locale de l'eau, sous l'aimable pression donc des syndicats agricoles cités, un gentil déni démocratique. La prévention, est-ce que vous connaissez? Moins polluer au lieu de dépolluer sans cesse. Ça paraît un slogan trop subtil peut-être pour nos décideurs nationaux, alors que l'eau devrait se gérer localement. Dans ces bottes d'égoutier, le laboratoire scientifique est débordé par les grandes marées. En attendant des suites que l'on veut heureuses, alors goûtons l'onde claire, pure et minérale, tout droit ressurgie de nos montagnes, conditionnée en bouteilles plastiques. Elle nous a coûté assez cher, au moins 100 fois plus que l'eau du robinet. Alors notre eau, elle sera salée. On va y extraire de la coquille Saint-Jacques à Port-en-Bessin. Ça va être un exemple tout à fait positif de pêche bien gérée.
Estrella de la sin razón, un espejo. sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la...
Juliette l'Orphelin a très bien fait de choisir donc Rosalia et la Perla. Ça sent les embruns, ça sent la Manche, on y va.
Ben, ils viennent de finir leur marais, ils ont attendu la pleine mer pour rentrer. Là. Puis ils sont rentrés dès qu'il y avait de l'eau, là. Ils se sont mis dans l'avant-port à l'abri, enfin pas vraiment à l'abri, c'est pour éviter de manœuvrer. Quoi. Et ils rentrent tous à la queue leu-leu maintenant pour aller livrer les coquilles Saint-Jacques. Là, on a des bateaux, les plus petits, oui, font une dizaine de mètres, et les plus gros font 16 mètres. De toute façon, il n'y a pas plus de 16 mètres, c'est la limite maximum. Donc on a des bateaux qui font en moyenne 14 mètres. Ils viennent de globalement toute la Normandie, puisqu'on n'a pas de licence attribuée à des Bretons, donc ils viennent de Granville jusqu'à Boulogne. On va aussi dans les Hauts-de-France, jusqu'à Boulogne, voire Dunkerque pour certains bateaux. Alors, ils vont pas faire des allers-retours tous les jours, hein, puisqu'on a une pêche de 2h30 tous les jours. Donc ils viennent débarquer ici, c'est mis dans des camions et c'est rapatrié dans leur port. Ou c'est vendu à la criée de Port-en-Bessin, enfin ça dépend après des modes de commercialisation de chacun. Avec quelques embouteillages, quelques chocs, ça fait partie du folklore, quoi.
L'entrée des bateaux, des coquillards à Port-en-Bessin, c'est un spectacle. Bon, ça sent un peu le gasoil, mais le vent dégage vite tout ça. Dimitri Rogoff, 20 ans sur un bateau et aujourd'hui président du comité régional des pêches maritimes de Normandie, est avec nous. Alors certes, sa forme en a fait un symbole religieux associé à la pureté, au principe divin attribué à l'apôtre Saint-Jacques. Ok, mais elle est coquille avant tout. Et avant de faire le chemin de Compostelle, eh bien son chemin est maritime. Et cette coquille, bah, elle est aimée des Français hein, et arrive dans nos assiettes bien au-delà des périodes de fêtes. La Manche, une partie de la Bretagne, la baie de Seine en particulier où nous sommes, est son territoire préféré avec un bel apport de nourriture depuis l'estuaire. On en consomme quand même 150 000 tonnes par an, on en produit 50 000 en France, dont 30 000 à peu près en baie de Seine. Et cette coquille donc, est devenue un modèle de gestion, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Il y a 10 ans, le stock baissait dangereusement et suite à la présence d'une algue toxique, bon, qui était classique, une zone de pêche a été fermée. Et l'année suivante, eh ben, ça a été le miracle, il y en avait partout. Les pêcheurs ont décidé, au sein de leur comité régional normand, de leurs règles de pêche, ça, on va y revenir. La réglementation, le suivi scientifique d'Ifremer, la certification de l'éco-label MSC Pêche Durable, parce que MSC, c'est quand même un porte-étendard, là, sur le marché français. Ces contrôles, eh ben, sont acceptés par la profession, car hier, on comptait les coquilles en débarquant du navire. Aujourd'hui, on compte les bacs de coquilles. Alors, cette coquille, donc hermaphrodite, restera toujours un produit sauvage. On va la découvrir. Donc, on est à Port-en-Bessin, dans le Calvados. Regardons le dessous de la coquille, donc avec Dimitri Rogoff, avec Arnaud Manner, qui est le directeur de Normandie Fraîcheur Mer, et Dominique Lamor, qui est animateur durabilité dans la baie de Seine. On y va. Alors on a donc quitté le port qui est juste derrière nous, hein, de Port-en-Bessin, qui porte son nom. Hein, c'est quand même le premier port de pêche artisanale en Normandie, c'est ça?
Oui, c'est le plus gros port en tonnage et en chiffre d'affaires. Oui, c'est un gros port, 35 bateaux nominatifs, mais après beaucoup de bateaux qui viennent, notamment pour la coquille. Il y a plus de 60 bateaux là, qui sont rentrés aujourd'hui, donc il y a du monde, une grosse activité.
Alors c'est vrai que ce port s'est aussi construit énormément donc, sur la coquille Saint-Jacques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler en fait de cette filière qui est devenue assez exemplaire. Bon, ça date, on va dire, d'une petite dizaine d'années. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça fonctionne et pour qu'on ait encore de la coquille Saint-Jacques?
Alors, on est parti, comme tout le monde, de l'idée que la mer, on n'allait jamais la vider et qu'il y aurait toujours à pêcher. Mais on s'est rendu compte très vite, hein, dans les années 70, que le stock de coquilles, il variait énormément. Et une année, ça a pratiquement disparu. Donc depuis, il y a une prise de conscience assez lente. il faut faire quelque chose, quoi. Le problème, c'est que, bah, il n'y a pas que des bateaux de Port-en-Bessin, il y a des bateaux de toute la Normandie qui viennent ici, donc il a fallu mettre tout le monde d'accord. Et on a réussi à faire comprendre aux pêcheurs que la coquille est un capital et on doit pêcher avec les intérêts. C'est-à-dire, on doit avoir une ressource abondante pour pouvoir travailler facilement, quoi. Et pas être tributaire de bonnes, de mauvaises années, sans qu'on sache trop pourquoi. Avoir de la coquille toute la saison et tous les ans.
Donc ça veut dire, traduction, qu'il y a des endroits donc, qui sont délimités, auxquels on ne va pas toucher pendant un an ou...
Alors ça veut dire d'abord qu'il y a un gisement classé dans lequel, pour y accéder, donc à l'intérieur des 12 000, dans les eaux côtières, il y a des critères, il ne faut pas être trop long, faire moins de 16 mètres, il faut avoir une licence, il n'y en a que 224 de distribuer. Et après, il y a la mise en place de mesures de gestion, dont notamment des sectorisations, avec la mise en jachère de certaines zones, avec des temps de pêche, avec des durées de pêche. C'est une pêche extrêmement encadrée, quoi, ouais, par des mesures techniques et par des mesures de gestion.
Arnaud Mamère, moi je me tourne maintenant vers le directeur de Normandie Fraîcheur Mer. Bon, point de départ quand même, c'est qu'à une époque, on pêchait non-stop la coquille Saint-Jacques.
Oui, précédemment, on pêchait la coquille Saint-Jacques en baie de Seine 24 heures sur 24. Et puis petit à petit, les horaires de pêche ont été mis en place. On a commencé par 12 heures, 10 heures, et on a resserré de plus en plus au fur et à mesure que les stocks étaient de plus en plus prolifiques. Et aujourd'hui, comparativement à 25 ans, il y a 25 ans où on pêchait 24 heures sur 24, aujourd'hui, les bateaux ne sortent plus que 4 fois par semaine. Ils pêchent entre 1h30 et 4 heures par jour. En ce moment, c'est 2h30. Ça fait là une grosse différence, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de 24 sur 24 à 16 heures maximum par semaine de pêche. C'est considérable l'effort qui a été produit en termes de préservation de l'environnement, préservation de la ressource, réduction de l'usage du carburant par les navires. Donc, une démarche beaucoup plus écologique que par le passé.
Et alors, tout ceci, en fait, c'est le travail des pêcheurs, c'est-à-dire que cette réglementation, c'est entre vous que ça se passe.
Oui, la coquille n'est pas une espèce communautaire, elle n'est pas gérée au niveau européen, elle est gérée en franco-français, et les règles sont établies par les pêcheurs, pour les pêcheurs, et c'est contrôlé par l'État après. Donc c'est vraiment les pêcheurs qui décident des mesures d'encadrement de la pêche.
À Port-en-Bessin, l'Espérance, je vais suivre la troupe là.
À Port-en-Bessin, Jean-Marc et ses équipiers pêchent le précieux coquillage à l'aide de ces grosses poches, que l'on appelle des dragues.
Chaque drague a des râteaux, et donc ça rentre dans le sable, et ça soulève les coquilles. On traîne à environ un quart d'heure, donc c'est rapide.
Rapide aussi, parce que chaque bateau n'a qu'une heure et demie pour pêcher, c'est la règle. Le but, ne pas épuiser les ressources. Une fois à bord, les coquillages doivent être triés.
Ça, c'est petite coquille, donc celle qui est autorisée à 11,2. Là, c'est grande, c'est plus de 13. Donc ça passe aux catégories de sur, on les vend plus cher.
Les plus petites doivent être remises à l'eau. En France, la pêche de la Saint-Jacques est très réglementée.
Alors là, on regarde donc cette manche, c'est génial parce qu'on a quand même tout un dégradé de couleur entre le ciel et quand même la verdeur de cette mer. On va juste rappeler que c'était quand même une ancienne rivière hein, qui séparait donc l'Angleterre de la Manche. Elle n'est pas très profonde là-dessus, Dominique Lemort.
Non, on est toujours séparés des Anglais, hein, bien sûr, pour diverses raisons. La rivière a disparu, le fleuve a disparu, mais les coquilles ont trouvé là leur endroit propice où croître, ça c'est clair et net.
Alors dites-nous pourquoi effectivement en baie de Seine, à cet endroit-là, ça fonctionne bien.
Alors en fait, on a déjà la nature des fonds, on a la profondeur qui n'est pas très profonde.
30 mètres,
quoi. Ouais, alors jusqu'à 50 mètres en milieu de manche, hein, sachant qu'il n'y a pas des coquilles partout, mais la coquille, on va plutôt la trouver dans des fonds autour de 15 à 30, 35 mètres. Hein. Et là, elle a trouvé son habitat propice et son habitat idéal pour croître en quantité et en qualité également.
Qu'est-ce que l'on a au fond ?
Des coquilles.
Oui.
Et à part ça, eh ben, oui, on a des fonds alors, principalement sableux, ou qui sont vraiment propices à la coquille Saint-Jacques, qui s'y plaît, qui trouve son habitat idéal.
Là, on va moins bouger, mais on se met un petit peu quand même à l'abri du vent. Arnaud Mamère, vous bossez avec les scientifiques.
En fait, tous les ans, en période estivale, pendant la période de non-pêche, finalement, des pêcheurs, l'Ifremer, à l'inverse, va pêcher la coquille Saint-Jacques un peu partout, ouais, sur la zone de la baie de Seine, mais aussi un peu au large, pour évaluer les stocks pour la campagne suivante.
Donc pour voir s'il y a des petits, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça, exactement, pour savoir quelle quantité de petits les coquilles Saint-Jacques ont produit, et surtout quelle quantité va rentrer dans l'exploitation l'année suivante.
Voilà.
Et ça, c'est un suivi qui existe depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 40 ans. Et ça permet vraiment d'avoir le constat, c'est une photographie, de la quantité de coquilles Saint-Jacques. Et donc on estime la biomasse tous les ans.
Et aujourd'hui, on en pêche combien de tonnes alors ?
Comme le disait Dimitri, on pêche aujourd'hui les intérêts plutôt que le capital.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on va pêcher en baie de Seine entre 25 et 30 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire un peu moins du tiers, là où par le passé, on était capable de pêcher 90%. les choses ont vraiment bien changé. On laisse suffisamment de capital sur le fond pour que la reproduction soit beaucoup plus effective et beaucoup plus sereine pour l'avenir des pêcheurs.
Le problème, comment les ouvrir ?
C'est très facile. On prend tout d'abord un couteau.
Un grand couteau assez souple.
Oui. Après, on prend la coquille. Dans la coquille, il y a toujours un côté où on peut ouvrir facilement.
Un petit trou.
Voilà, un petit trou. On passe le couteau et puis on le plie de façon à ce qu'on décolle bien la coquille.
Alors on réussit. Du couvercle.
On réussit pas toujours, hein, mais enfin, j'espère de tout mon cœur réussir.
Eh oui, c'est pas si facile. Hein.
C'est pas si facile, faut faire attention. Voilà, je l'ai décollé un peu trop. Là. J'espère y être arrivé. On va le savoir très vite. Voilà.
Bon, alors elles ne le savent pas forcément, nos chères coquilles, mais enfin, elles bénéficient d'un écolabel. Qu'est-ce que ça veut dire pour elles et pour le consommateur ?
La certification, l'écolabel pêche durable MSC, il a été obtenu sur trois grands principes. Le premier, c'est que le stock se porte bien, et ça, on l'a largement justifié. Ouais. Le deuxième, c'est que l'impact environnemental de l'engin est maîtrisé, mesuré, et on a vu qu'il a nettement diminué par le passé, les jachères qui ont été mises en place.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les dragues, parce qu'on ne sait pas forcément comment on pêche la coquille Saint-Jacques.
Tout à fait.
Faut imaginer quoi ?
Des râteaux avec un sac par derrière. Et l'impact de ces engins sur nos fonds marins est relativement limité, de par la nature des fonds marins eux-mêmes. On est sur des fonds sableux, caillouteux. On est sur un espace maritime où on a des grandes marées, des forts courants, peu de profondeur d'eau. Et donc, le fond est très souvent déjà remué, naturellement. Et donc, c'est un fond qui est capable d'accepter le passage des dragues, d'autant qu'on a réduit largement l'usage de ces engins de pêche sur les zones de pêche. Et donc, aujourd'hui, on fait preuve d'une certaine maîtrise de l'engin de pêche et d'un impact limité sur notre environnement. Et puis, le troisième point stratégique de la certification pêche durable, c'est que la coordination, la gestion qui est mise en place est suffisamment efficiente, efficace et réactive pour être en capacité d'adapter ces mesures de gestion aux besoins où la situation deviendrait moins positive. Le système est suffisamment réactif pour pouvoir reprendre des mesures de gestion adaptées.
Et en même temps, vous avez agrandi les mailles de ces fameuses dragues. C'est-à-dire que ça permet maintenant peut-être aussi aux juvéniles de pouvoir passer au travers et de pouvoir être ramassés.
Oui. Bah, c'est la base de toute pêcherie et toute bonne gestion, c'est la sélectivité. On laisse les sujets petits, les juvéniles sur le fond. On trie sur le fond plutôt que trier sur le pont. C'est une expression d'un président breton qui disait ça. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Et ce modèle-là, il faut qu'on le transpose sur d'autres espèces. Et c'est là où est une de nos difficultés. C'est-à-dire ce qu'on fait sur la coquille, avec la coquille, on a réappris à travailler sur des ressources qui sont abondantes. Ouais. Et moi, mon rêve, c'est qu'on le fasse sur la sole, c'est qu'on le fasse sur beaucoup d'espèces. C'est-à-dire qu'on privilégie des modèles qui ne soient pas productivistes.
Monsieur Pierre,
oui.
Je voudrais vous demander quelque chose.
Qu'est-ce qu'il y a encore, Josette ?
Je voudrais garder les coquilles, c'est pour faire des cendriers.
Oh, mais bien sûr, Josette. Je vous les donne. Mais tiens, tenez, Josette, c'est mon cadeau de Noël.
Oh, c'est vrai, Monsieur Pierre. Pas d'étang, ça fait drôlement plaisir.
Tenez, Josette, c'est rien. Quand on peut faire plaisir, puis ça débarrasse.
Bon, futur pêcheur ?
Ouais, tout à fait, en reconversion.
Qu'est-ce que tu faisais avant ?
C'est de base, moi je suis dans l'ostréiculture, donc
d'accord,
les huîtres.
Ouais.
Et après avoir embarqué pour démarrer découverte, ça a été le déclic. C'est un métier qui est extraordinaire, le fait de partir en mer, de ne pas avoir de routine, d'avoir un métier où on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas s'il va y avoir de la casse, on ne sait pas si ça va pêcher. Vivre en décalé parce que c'est des heures très tôt, vivre en fonction des marées. Enfin, c'est vraiment un métier qui demande beaucoup de passion, du temps, de l'acharnement. On peut être malade, hein, c'est pas grave, c'est comme ça, ça va passer. Mais ouais, c'est surtout un métier de passion en fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait.
Et alors sinon, donc, la coquille Saint-Jacques, qu'est-ce qu'elle représente ? Parce qu'ici, c'est quand même une vraie richesse.
Bah, c'est une ressource dont il ne faut pas abuser.
Vous êtes jeune, vous êtes déjà très conscient, je sais que c'est votre métier, mais très conscient de la ressource, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec...
Bah ouais, parce que bah, souvent, les patrons, ils nous disent, bah voilà, dans 10 ans, là, ça se trouve, il n'y en aura plus, donc quand vous avez commencé à naviguer, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut en laisser...
Ouais.
Parce que c'est après...
Mais ils sont pas mal du tout non plus, hein, ces jeunes. Donc, comment ça se reproduit ? Ah, une coquille, bah, vous allez le savoir. Restez avec nous pour la recette. Vous allez vous débrouiller comme des grands. Et puis, on va aussi y aborder la notion de miroir. Ça, c'est joli. Comme cette chanson. Celle-là, elle est superbe.
La mer n'existe pas. Parfois, nous la rêvons. Mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas. Parfois nous la croyons, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. Elle va sur nos croyants. De l'aube jusqu'à l'errance, comme un vaisseau sans mât. La mer n'est plus ici, la mer n'est plus là-bas. On dit qu'elle est partie, mais ça n'existe plus. Mais n'est pas du voyage entre ici et ailleurs. Notre ciel est là-bas, mais ça n'existe pas. Parfois nous la rêvons, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. Parfois elle n'existe pas. Parfois elle nous attire dans cette certitude. Comme elle respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
Mingo, que l'on avait choisi avec Xavier Pestugia, parce que c'est vraiment très très bien cette mer qui n'existe pas. Nous sommes face à la Manche qui existe réellement. On parle de coquille Saint-Jacques dans C'est au-deux mon amour. On est à Port-en-Bessin dans le Calvados. Alors on est à l'opposé de la pêche anglaise, hein, parce que là c'est vraiment de la prédation. On ratisse et quand il n'y en a plus, on va ratisser ailleurs. Et avec des bateaux de 45 mètres qui sont plus longs que la profondeur de la Manche, avec un joli dumping social. Donc c'est vraiment l'opposé, heureusement, ce qui se passe chez nous, donc en France. On retrouve cette pectinidée. Et oui, on va poursuivre sa découverte. Je suis une coquille Saint-Jacques. Là, je me tourne vers vous, donc Dominique. Je fonctionne comment, là? Moi, je suis une filtreuse. Bon, donc ça, c'est plutôt bien sympathique. Et puis après, j'ai des yeux. Qu'est-ce que j'ai?
Ah, j'ai plein de choses. Alors, j'ai évidemment une noix et un corail, parce que c'est ce qu'on mange. J'ai aussi des barbes, c'est le manteau. C'est là qu'on parle des yeux de la coquille Saint-Jacques. Eut un temps, on parlait de 60 yeux. Je me suis toujours posé la question de savoir si quand on en avait 59 chez une coquille, on était borgne ou pas. Toujours est-il que maintenant, on en est à 200. À part la noix et le corail, la noix, c'est le muscle. Le corail, c'est la glande reproductive. C'est ce qu'on appelle la gonade. Et ça, c'est intéressant parce que chez nous, on l'a à peu près chez nous. Quand je parle de chez nous, c'est la Normandie, bien sûr. Les autres, c'est différent. Mais chez nous, on a un corail qui est présent pratiquement pendant toute la saison de pêche. On va dire à partir du début décembre, fin novembre, jusqu'à la fin de la saison de pêche. Ce corail, il est super important parce que déjà, visuellement, c'est très intéressant dans l'assiette. Deuxièmement, il y a quand même un intérêt gustatif qui est autre. Et troisièmement, ça participe quand même à la reproduction. Ça, c'est clair et net. Dans le corail, vous avez donc deux parties. La coquille Saint-Jacques est une bestiole hermaphrodite, comme l'escargot, mais pour moi c'est un peu meilleur que l'escargot, quoique j'adore les escargots.
Bien sûr.
Et donc du coup, vous avez une partie mâle, qui est une partie crème sur le corail, et une partie femelle. Tout ce petit monde, va exploser l'été, si on peut dire. Enfin, le corail va se vider. Et c'est ça qui va produire des œufs, des spermatozoïdes. Il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une énorme partouze dans la mer. Et ça va nous donner des petites larves qui vont se balader pendant 3 semaines, 1 mois, tomber au fond de l'eau et se transformer en petite coquille Saint-Jacques. Et 2 ans plus tard, on pêchera des coquilles qui font la taille réglementaire.
Ah ouais, d'accord. Mais c'est quand même pas gagné, parce qu'entre toutes les gamètes qui vont circuler, qui vont se faire bouffer, inévitablement, il reste quoi en fait?
En grande partie, beaucoup vont servir au réseau trophique. Il faut bien que tout le monde en profite. Quoi. Nous, en dernier lieu, mais évidemment qu'il y a plein de bestioles qui profitent de ces petits gamètes-là. Après, je ne sais pas exactement combien le reste, mais à mon avis suffisamment, vu ce qu'il y a à pêcher actuellement. Parce qu'il faut savoir, et ça, il y a peu de gens qui le savent, qu'on a devant Port-en-Bessin, le gisement de la baie de Seine, c'est le gisement de coquille Saint-Jacques le plus important au monde.
Ah.
On est les plus forts.
Est-ce qu'on n'est pas un peu fragilisé ici, parce que la coquille se vend quand même très très bien? Est-ce qu'on ne relève pas un peu de la monoactivité quand on est pêcheur?
On dit toujours la pêche normande se porte bien parce qu'on regarde par le prisme de la coquille. Après, c'est aussi notre tendon d'Achille, parce que la monoactivité, justement, rend fragile. Bon, il faut qu'on la consolide, il faut qu'on la pérennise, cette ressource, mais on a aussi tous les autres sujets, parce que l'été, les bateaux, ils continuent à travailler. Ils ont besoin de poissons, ils ont besoin d'accéder à des quotas, à des lieux de pêche. Et là, ils sont pris dans toutes les difficultés qu'on connaît actuellement, sur le maquereau, sur la sole, sur le bulot, qui est victime du réchauffement climatique. Donc, on a des besoins de se diversifier pour avoir une pêche solide. Et la coquille Saint-Jacques ne suffira pas à garantir l'avenir de la pêche normande.
Dominique Lamort, parlons maintenant de la vulnérabilité de ces coquilles Saint-Jacques, parce qu'il y a quand même un machin qui s'appelle le réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, ça?
Le réchauffement climatique, les pêcheurs, ils le vivent au jour le jour, un peu comme les agriculteurs, mais c'est vraiment une vraie réalité. Et au niveau de la Normandie, on sait bien qu'il y a des espèces qu'on ne voit plus ou qu'on ne va plus voir, qui vont disparaître. Le cabillaud, on n'en parle déjà plus. Et le bulot, pour citer un autre coquillage emblématique de la Normandie, c'est clair et net qu'il est sorti de sa zone de confort. Dès que le courbouillon est un peu chaud, le bulot, il ne supporte pas. Pour ce qui est de la coquille Saint-Jacques, pour l'instant, je parle bien pour l'instant, il semblerait que, indépendamment des mesures de gestion qui sont hyper efficaces, le réchauffement climatique n'est pas d'impact négatif. Il aurait plutôt, peut-être, mais ça, on n'en a pas encore la certitude, il aurait plutôt des effets bénéfiques. C'est ce que nous disent les scientifiques de l'Ifremer. Bon, ce qu'il en est exactement, on ne sait pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci.
Mais je suis un poulpe, ça m'intéresse quand même une coquille.
Ah oui, 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 oui. Surtout que le poulpe, il a disparu de la Normandie depuis les années 62-63, les grands hivers, très froids. Et on le voit réapparaître. Alors, très honnêtement, c'est plutôt pour l'instant bénéfique pour la pêche plutôt que négatif pour la coquille Saint-Jacques. En fait, il y a suffisamment de coquilles Saint-Jacques, il y a trop de coquilles Saint-Jacques pour nourrir tous les poulpes. Et je pense que les pêcheurs s'en occuperont avant. Il est clair et net que dans les petits gisements de la Bretagne Sud, eh ben, les coquilles Saint-Jacques ont pratiquement disparu, boulottées par le poulpe. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est plutôt un effet bénéfique, le poulpe, d'avoir le poulpe par chez nous, que négatif pour l'instant.
C'est ce qu'on se disait en regardant la mer. La vie pourrait passer à regarder la mer. On laisserait tout tomber, la ville et ses lumières. C'est ce qu'on se disait là devant la mer.
Dominique Lamort, coquille Saint-Jacques et sentinelle de l'environnement, ça fonctionne?
Oui, pas mal. En fait, il y a un célèbre scientifique qui a écrit un bouquin très intéressant. Et c'est clair et net qu'avec les moyens technologiques modernes, entre guillemets, on peut étudier la croissance de la coquille Saint-Jacques, et notamment au jour le jour. Et comme une coquille Saint-Jacques, ça va vivre jusqu'à 15, 16, 17 ans, et ben on peut savoir un petit peu ce qui s'est passé il y a 12, 13, 14 ans en fonction de l'âge de la coquille Saint-Jacques. S'il y a eu des accidents de parcours qui ont été liés à des incidents climatiques, à des apports plus ou moins importants. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce qu'on peut savoir ce qui s'est passé il y a déjà pas mal d'années.
Ouais.
Et ça, sur des coquilles ou vivantes, voire même éventuellement sur des coquilles sur lesquelles on marche.
La taille minimum, c'est 11 cm. Hein. Sinon,
oui,
on ne peut pas la pêcher.
Ce sont des coquilles qui ont à peu près chez nous 2 ans, 2 ans, un quart, on va dire. En Bretagne, elles poussent un peu moins vite. Et donc,
parce qu'elles ont une nourriture qui n'est pas la même?
Il semblerait que la nature des fonds... Alors, les scientifiques ont aussi une petite hypothèse là-dessus, qu'il y aurait une légère différence génétique. Ça reste la coquille Saint-Jacques, mais ce n'est pas tout à fait la même bestiole. Mais c'est vrai que chez nous, c'est... La Normandie est généreuse, hein, Denis. Hein,
mais c'est bien. Donc, il suffit de regarder ça, donc voilà. Alors, il y a un terme que vous aimez bien, vous, c'est le terme de miroir. On connaît le terroir, mais votre vie, vous, c'est le miroir. Racontez-nous.
Bah, y a une forme d'unité de lieu, c'est-à-dire que le fond de la mer, c'est un peu le prolongement de la terre, et quelque part, la terre nourrit la mer, nous on va en mer pêcher, et on voit bien que les animaux, selon l'endroit, les coquilles, selon les endroits où on pêche, elles sont différentes, elles ont un aspect un peu différent, elles ont des couleurs différentes, elles ont pas tout à fait la même morphologie, on les reconnaît, nous un peu, on reconnaît une coquille de la tonne de Cussy, d'une coquille du minot, elles sont un peu différentes, donc... C'est vraiment le miroir là qui s'exprime, c'est-à-dire que le lieu là où elle grandit différencie les animaux. Quand on passe chez nos amis bretons, on a une coquille qui est totalement différente, qui est plus petite, qui croît moins vite, qui n'a pas de corail par exemple. Et on voit l'importance là du... On va pas parler de terroir, mais on va donc parler de miroir. Ah, quoi. Oui. L'importance du lieu quoi, par rapport à sa nourriture, aux conditions environnementales, sur l'eau, sur beaucoup de choses qui font la différence quoi, entre les animaux et qui leur procurent bah, même un goût qui peut être différent, etc. Quoi. Donc c'est important cette notion de miroir. Et puis après, en cuisine, eh ben, on a tout intérêt à associer les produits d'un même lieu, les produits du terroir avec les produits du miroir. Et comme ça, ça fonctionne très bien.
Ah, d'ailleurs, vous la mangez comment vous ?
Alors, la coquille Saint-Jacques, alors, comme on a accès aux produits, on essaie de varier les plaisirs, mais finalement, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on les poêle dans un peu de beurre, effectivement, et on les accompagne avec les légumes de saison, les produits locaux, et ça va très bien. C'est-à-dire, pas chercher les complications, c'est un produit hyper facile à préparer, puisqu'en moins de 2 minutes sur chaque côté, c'est fait, et c'est un produit avec lequel c'est la fête à chaque fois qu'on mange les coquilles Saint-Jacques. Ouais.
Échalote.
Échalote.
Citron.
Citron.
Un filet. Persil.
Présente.
Ils sont prêts les autres ?
C'est prêt ?
Coquille Saint-Jacques maison !
Oui, la merveille ! C'est un génie, mon fils ! On va se régaler !
Dimitri Rogoff, qu'est-ce qui vous plaît profondément, vous, à la fois dans ce lieu, ce miroir, ce métier, tout est mêlé ?
Avoir passé un bon quart de ma vie en mer, c'est plutôt du bonheur. C'est-à-dire se lever tous les matins, prendre son thé avec un soleil qui se lève sur la mer, une lumière toujours changeante, une mer qui est toujours différente, jamais de la même couleur. Poser la question de ce qu'on va pêcher, parce qu'on n'est que des cueilleurs, hein. On ne va pas récolter, donc on n'a rien semé. C'est un vrai plaisir. C'est-à-dire on est soumis à la fatalité d'exigences qui sont extérieures à nous. Quoi. Et donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Faire les marées, le cycle lunaire, le beau temps, le mauvais temps. Ce qui se passe en mer est plus intéressant des fois que ce qui se passe à terre. Quoi. C'est un bonheur d'être en mer. Voilà.
Arnaud Manner, vous aussi, donc, vous êtes quelqu'un qui fait de la nage en apnée. Bon, qu'est-ce qui vous plaît vous, dans votre job là ?
Ah bah, de pouvoir effectivement concilier mon affect pour la mer et le temps que j'y passe sous l'eau et parfois pour pêcher de la coquille Saint-Jacques directement au fond de la mer. Et puis travailler pour des pêcheurs engagés parce que autour d'un produit, la coquille Saint-Jacques qui est quand même un produit très noble, mais qui est devenu un produit aussi...
Qui est rassurant.
Oui, il est rassurant. C'est un produit sain, équilibré et auquel on peut vraiment accorder beaucoup de crédit. Et aujourd'hui, on a des ambitions hein, par rapport à cette coquille Saint-Jacques, et en particulier le fait de faire comprendre aux consommateurs que la coquille Saint-Jacques reste ce qu'elle est, mais n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que ce n'est plus un coquillage uniquement festif, ce n'est plus un coquillage qui vaut cher. Et malheureusement, ce n'est pas encore bien pris en considération par tout le monde. Mmh. On a tort de consommer pas suffisamment de coquille Saint-Jacques après fête, ou je dirais on aurait plutôt raison de consommer de la coquille Saint-Jacques après fête, plutôt que de consommer dans sa consommation courante du saumon d'Écosse ou de Norvège, du cabillaud de Norvège ou du colin d'Alaska ou autre. On a un produit français en quantité qui permet d'assurer une consommation tout au long de l'année, et profitons-en tout au long de l'année, pas que pendant les fêtes.
Dimitri Rogoff, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter face à cette manche ?
Bah, qu'on continue à y voir autant de pêcheurs. Les pêcheurs sont aussi indispensables à la mer que les oiseaux. Donc on continue à pêcher, à ramener des beaux produits de la mer qui sont la dernière nourriture sauvage qu'on peut encore consommer sur Terre. Donc il faut garder la pêche, il faut garder un modèle de pêche artisanale, se prémunir de la pêche industrielle. Et c'est tout ce que je souhaite pour l'avenir.
Ouais. Arnaud Manner.
Une prise de conscience générale que il est largement temps de faire arrêter le processus d'évolution climatique.
Oui.
Parce que les bonnes intentions de dire oui, la mer elle peut être prolifique, on sait que plus les eaux chauchotent, moins la mer est prolifique. Et ici en Normandie, on a une eau fraîche, très riche, parce que de la diversité de l'interface entre la mer du Nord et l'Atlantique. Et le réchauffement déplace tout ça vers le nord. Et si on retrouve des eaux chaudes chez nous, on aura moins de diversité, moins de ressources. Donc réagissons.
Eh bien, merci à vous, à vous trois, et puis à bientôt.
Merci, Denis, c'était vraiment un plaisir.
Eh bien, au-delà de leur passion à tous les trois de ce métier, eh bien, ils aiment profondément. Ils aiment profondément, évidemment, ce lieu, on l'a bien compris, et ce miroir. Merci à Tilaï Ravu qui a mixé ce reportage. Reportage colorisé par Xavier Pessugia, qui l'a pensé. Camille Blanès et notre assistante Julien Dumont à la technique, avec Antoine Larcher qui a boutiqué donc tout cela. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors là, on va changer complètement encore. On va aller de Port-en-Bessin dans le Jura suisse, dans le canton de Vaud. In Bocca del Lupo. Alors ça, on va s'intéresser au loup avec une comédienne, une metteuse en scène aussi. Ça va être très, très intéressant. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.